Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
C'est pas facile à la télé d'indiquer quelqu'un quand il est à l'arrière, c'est toujours à l'inverse en fait. Frédéric Simotel.
À Cour ou à Jardin, voilà.
Tu fais très bien la circulation.
Non mais hein, c'est à Cour Jardin, Jésus-Christ donc, un cours.
C'est ça. Salut Fred. Merci d'avoir assuré, bien évidemment, toute la semaine dernière.
Et puis merci aux débriefeurs d'avoir été là aussi tous les soirs, parce qu'on a eu plein de sujets
passionnants. Ouais, c'était cool. Fred Simotel, donc, qui va cette fois-ci prendre le rôle de débriefeur que vous connaissez, journaliste à BFM Business. Et à ses côtés, Michel Lévy-Provençal, qu'on ne présente plus, qui est souvent dans Tech & Co pour commenter l'actu aussi. Salut.
Bonsoir,
Michel.
François.
Prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness, avec toujours ce TED... qui se prépare à Paris.
Bonjour,
on en parlera tout à l'heure encore. Et puis un petit nouveau pour débriefer l'actu ce soir, c'est Pierre Vanier qui est avec nous. Salut Pierre.
Et salut François, bonjour à tous.
Bon fondateur soir. Et PDG de Flint. C'est la première fois que vous le voyez dans Tech & Co sur BFM Business pour débriefer l'actu. Il y en aura d'autres. Bienvenue Pierre.
Merci.
Tu as un petit peu vu comment ça se passait, le débrief de l'actu.
Ouais, tout à fait, je suis un grand fan.
Bon, bah, tant mieux. Est-ce que tu pourrais te présenter à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent?
Moi, Pierre Vanier, je suis fondateur d'une société qui s'appelle flint.sh, si vous voulez aller voir. C'est l'extension du domaine de Sainte-Hélène, pour ceux que ça rend curieux. Donc, c'est une ESN, donc une entreprise de services numériques, qui est entre Montpellier et Paris. Mm-hmm. Et moi-même, je suis développeur, ingénieur informatique et passionné de tech. Et je connais mon ami, donc Michel, depuis un certain temps, et très content de partager ce moment avec vous. Et
bienvenue.
Pareil. Belle première. Et en fait, le duo Michel-Pierre n'était pas prévu. Hein. C'est le hasard qui a voulu ça aussi. Donc,
très marrant.
C'est intéressant. Avec au sommaire de l'actu en ce lundi, on va parler de TikTok, bien évidemment, et de DJI qui pourrait subir le même sort que TikTok. Alors, c'est pas encore fait pour TikTok, mais c'est vrai que ça sent pas bon. Et ça sent pas bon non plus pour DJI. On va parler aussi de ce conseil de sûreté, de sécurité de l'intelligence artificielle qui a été commandé par Joe Biden avec des membres, on va dire, prestigieux, Sam Altman, Dario Amodei, il y a aussi Jensen Huang, Satya Nadella, Sundar Pichai, en fait, tous les on va dire, les cadors de l'intelligence artificielle. Apple, donc, qui, visiblement, hésiterait entre OpenAI et Gemini pour intégrer l'intelligence artificielle générative sur ses nouveaux iPhones et sans doute tous ses nouveaux produits, que ce soit les Mac ou même les iPad. On parlera aussi, vous le savez, de ce long discours d'Emmanuel Macron, jeudi dernier, concernant l'Europe. Alors, on ne va pas refaire le match de ce discours, mais il y avait des moments très intéressants en matière de tech. Bien sûr, les investissements les investissements prioritaires qu'il faudrait mettre en place pour avoir une Europe forte en matière de tech. Et puis surtout, la majorité pour les plus de 15 ans en termes de technologie, on va dire, et d'écran. Ça aussi, c'est intéressant. On en parlera dans quelques minutes. Et puis, il nous restera du temps pour évoquer le voyage d'Elon Musk en Chine. Ah oui, Elon Musk là qui a sorti ses plus beaux atours pour séduire le gouvernement chinois. Les enjeux, il faut le dire quand même, sont très 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 importants. Et on vous expliquera tout ça tout à l'heure. Mais pour débuter donc, les USA s'attaquent à un autre géant chinois après TikTok, c'est DJI. Alors peut-être ne connaissez-vous pas DJI, mais DJI c'est le numéro un du drone dans le monde. Voilà, ils ont une expertise incroyable dans ce domaine-là. Ils font des drones qui coûtent 500 €, qui vont vous permettre de vous amuser comme ça, parce que vous aimez par exemple les objets radiocommandés comme un jouet, mais assez haut de gamme. Et ils font des drones à 20-30 000 € qui, eux, servent pour les grandes productions cinématographiques, etc. Bref, c'est un acteur incontournable du drone. Eh bien, les drones DJI pourraient être bientôt cloués au sol. Parce que, justement, il pâtit en quelque sorte de ce bras de fer entre Washington et Pékin. Qui veut commencer sur ce sujet qui était prévisible, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que là, on fait la chasse à toutes les boîtes américaines, les boîtes chinoises qui fonctionnent aux États-Unis, et DJI en fait partie, Pierre.
Ouais, clairement. De toute façon, DJI, je crois que c'est 90% de part de marché.
Oui.
Donc, quand on dit numéro un, je crois qu'on est vraiment loin du compte. Et effectivement, aujourd'hui, le bras de fer États-Unis, Sino-Américain prend toute sa vraie nature ici. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je regardais le site de DJI en préparant un petit peu l'émission. Ils ont ils viennent de sortir un drone spécialisé pour l'agriculture qui est capable de soulever 50 kilos. pour l'épandage, etc., etc. Et en fait, je regardais la plaquette sur le site de DJI et ça me fait penser à... Enfin, on pourrait très bien imaginer, à peu de choses près en changeant, qu'on se retrouve sur sur une plaquette d'armement, en fait, relativement facilement. Donc, je pense que le gouvernement américain, derrière, vient tacler un petit peu cette capacité... si on enlève l'épandage et qu'on change les caméras pour d'autres types de matériel, on peut se retrouver des choses qui sont quand même assez dangereuses.
En plus, je pense que les robots, enfin certains drones DJI doivent servir au conflit Ukraine-Russie, forcément, hein, puisqu'en fait ces appareils sont pimpés, hein, sont un peu bidouillés pour pouvoir après avec des charges explosives transporter des charges sur plusieurs dizaines de kilomètres.
Oui, oui, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la data aussi, hein, parce que effectivement, on ne sait pas trop si ces données de cartographie sur tout le territoire américain, je vous rappelle, si derrière vous avez un backdoor chinois qui peut récupérer toutes ces datas et qui vont être très fines, hein, qui vont être capables d'avoir des choses beaucoup plus précises que n'importe quel satellite qui va survoler les États-Unis. Donc là, il y a un vrai sujet géostratégique, d'enjeu de sécurité.
Mais qu'est-ce que, excuse-moi, je te coupe, mais qu'est-ce que tu imagines ? C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis américain, je me sers de mon DJI pour les loisirs. On peut imaginer que ces data qui m'appartiennent, finalement, pourraient aller en Chine pour être analysées, c'est ça ?
Un cloud DJI, vous récupérez les vidéos, et puis s'il y a un backdoor chinois, les données peuvent se retrouver et constituer une base de données de cartographie très fine, très précise, pour le gouvernement chinois, pour le Parti communiste chinois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que bon, ça, c'est un mouvement avec Huawei, avec TikTok. Et d'un autre côté, il y a peut-être une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les acteurs comme Parrot pourraient, qui sont d'ailleurs très actifs dans le domaine de la défense, de la sécurité et de l'agriculture.
Alors,
ils pourraient en bénéficier.
Tu as tout à fait raison, puisque en 2020, en fait, il y avait eu une première sentence concernant DJI, puisque les drones DJI étaient interdits d'utilisation par les militaires américains. Ouais. C'était la première interdiction. Et à ce moment-là, c'était Parrot qui avait décroché un peu par accident, j'ai envie de dire, et c'est pas méchant contre Parrot, mais il fallait trouver en fait un substitut à DJI, et les militaires américains ont très vite sélectionné Parrot, qui a été l'un des clients les plus importants en fait.
Avec un modèle spécialement
avec
USA,
un modèle spécifique.
Si vous allez sur le site de Parrot, vous allez voir.
Et ça avait relancé d'ailleurs la finance de Parrot qui était au plus bas à l'époque.
Je voulais rebondir sur ce que disait Michel, puisque je regardais, il y a effectivement une fuite dans le firmware, donc dans le système d'exploitation d'un des DJI qui est sorti. Donc il y a un hack possible. On appelle ça un exploit en informatique parce qu'effectivement, on peut rentrer en fait par une backdoor. Alors elle est pas, j'imagine pas commanditée par le gouvernement chinois. Et quoique, on peut se poser les questions. Mais en fait, on peut très bien avec le Wi-Fi aller récupérer tout un tas d'informations grâce à cet exploit qui date d'il y a quelques heures, quelques jours. Donc en fait, la menace, elle est vraiment là. C'est des outils de visualisation chirurgicaux qui sont répandus énormément et aujourd'hui ils constituent une menace pour le gouvernement américain et pour le département de la sécurité intérieure. Et d'ailleurs, ça nous permettra de faire une liaison avec un des prochains sujets.
Il est parfait ce débriefeur.
Ah oui.
Attends, il calcule les prochains sujets. Mais c'est incroyable en fait.
Ouais, non.
Attends, juste avant que tu réagisses là-dessus, j'aimerais qu'on revienne sur ce que dit en fait le gouvernement américain concernant DJI. Il dit ceci: DJI présente un risque inacceptable pour la sécurité nationale. Il est grand temps que les drones fabriqués par la Chine communiste, en plus, voilà, on y va.
Parti communiste.
Franco de port, hein, soit retiré du territoire américain. Il n'y a aucun doute sur le fait que toute tentative de prétendre autrement est le résultat direct des efforts du lobbying de DJI. C'est-à-dire que, voilà, on voit que il y a cette volonté forte de sortir DJI, en fait, des US.
Oui, ben alors, il faut savoir que c'est quand même utilisé par certaines parties des forces de l'ordre, par les services d'urgence américains.
Oui, parce que, comme le disait Pierre tout à l'heure, c'est 90% de parts de marché.
S'il y a des
data, hein.
C'est ça. On a quand même aussi... les États-Unis avaient déjà pris les mesures. Hein, depuis 2020, il y avait des acteurs américains qui n'avaient pas le droit de fournir en composant DJI. Donc, ils avaient quand même un peu vu des choses autour de ça. On avait c'était le département de la défense américain aussi qui avait revu un petit peu la direction de DJI en disant, dites donc, vous surveillez pas un peu trop les Ouïghours, enfin tout ça avec vos drones. Donc là, les Américains n'aiment pas trop ça aussi. Donc il y avait plusieurs mesures qui sont prises. Mais malgré tout, que ce soit pour TikTok, pour Huawei, pour DJI, on est, c'est ce que l'on... Alors, je reviens la semaine dernière sur le, nos débats aussi de débrief. On est dans une guerre, quoi. On est dans une guerre. Et donc, le chinois, c'est le méchant. En plus, ça va être plus facile d'interdire les drones DJI que TikTok, hein, où là, il y aura des VPN. Là, il suffit de tout bloquer. Et puis là, on va les sortir. Donc, on est dans cette guerre. C'est lancé. En plus, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ils vont demander aussi... C'est le Royaume-Uni qui veut mettre en place une loi aussi. Ils veulent interdire tous les devices qui, par défaut, proposent comme mot de passe admin ou 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, voilà, ils veulent que d'emblée, dès qu'on démarre le truc, on nous demande tout de suite un mot de passe robuste. Donc là, on imagine.
Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Que ce soit Parrot ou DJI, quand on les démarre, voilà, il n'y a pas vraiment de mot de passe ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est des failles potentielles. Et puis moi, j'amène un autre sujet là-dessus. Est-ce que le prochain, ça va pas être les voitures? Parce que Joe Biden l'avait dit. Hein,
mais tu as tout à fait raison.
Comment
se porte le marché des voitures chinoises aux États-Unis?
Bah, ça arrive peu à peu. Enfin, mais si tu veux, quand on va commencer à avoir des cargos entiers qui vont arriver avec les BYD et qu'on sort,
Mais là, tu as raison.
Surtout les Xiaomi.
La baisse des coûts de ces véhicules chinois par rapport au fait que, un, on doit quand même assurer la transition, et deux, il y a un problème de pouvoir d'achat. Si on ne fait rien, les Chinois vont gagner ces marchés-là. Hein. C'est clair. C'est valable pour les États-Unis.
Mais pour l'Europe aussi.
C'est valable pour l'Europe.
Évidemment. On est sur des mesures protectionnistes et ce dont tu fais état, on est quand même sur un remake ou un rejeu, un sequel, prequel, appelle-le comme tu veux, de ce qui se faisait dans les années 60, de Hoover, du McCarthyisme, etc., contre la Russie. Sauf que là, aujourd'hui, c'est la Chine. Et donc, c'est un vrai souci. La Xiaomi SU7, qui est un copier-coller, un copycat du modèle S de Tesla, se vend, va se négocier pour à peu près 3 fois moins cher qu'une Tesla modèle S. Donc évidemment qu'ils mettent tout un tas de digues vraiment pour se protéger et protéger leur propre
marché. Après, il va y avoir l'histoire des batteries aussi, parce que beaucoup de batteries viennent de Chine. Enfin, ça va être... Enfin, la bataille aussi, elle va être, tu vois, dans les composants et tout ça.
Non, mais c'est clair. Si on veut bannir des États-Unis tous les produits qui viennent de Chine... On n'est pas couché quand même, hein.
C'était un scénario qu'on avait évoqué à plusieurs reprises sur le sujet d'Apple. Je me rappelle dire, on a un vrai enjeu géostratégique pour des acteurs comme Apple. Vous avez remarqué qu'Apple investit massivement sur le Vietnam, ils investissent massivement sur l'Inde. Oui. Ils sont en train progressivement d'anticiper le risque.
Ouais, comme les constructeurs américains sur le Mexique, là, ils sont en train d'ouvrir un peu des usines de batteries et tout ça, parce que ils disent que les Chinois de leur côté pourraient
juste un mot, évidemment, DJI a réagi. Alors ils disent que voilà, toutes ces allégations sont inexactes et non fondées.
Des faits.
Et surtout, ils disent, ce projet est là aussi pour soutenir les constructeurs de drones américains et éliminer la concurrence sur le marché. Ce qui est pas faux non plus. C'est-à-dire que, voilà, en éliminant le numéro 1 qui fait 90% de parts de marché, ça laisse quand même...
Ça laisse la place, tout de suite.
Une jolie place à d'autres acteurs. Mais est-ce qu'il y a des acteurs américains qui sont spécialisés dans les drones? Je suis même pas sûr, en fait.
Intel.
Ouais, mais Intel, ils font pas des drones entiers. Ils vont faire peut-être des puces ou des petits machins comme ça. Mais je suis pas sûr qu'ils fabriquent des drones, Intel, non?
Par contre, si on veut des drones militaires, il y a des très belles boîtes.
Mais oui, voilà. Oui, mais c'est militaire.
Mais je pense que c'est par eux que ça va arriver. Ils vont faire des trucs plus petits, ils vont peut-être ouvrir une branche grand public ou semi-public pour des services d'urgence, des gens comme ça.
C'est une opportunité pour des acteurs américains et européens. Hein,
mais clairement. À côté de ça, alors la 5G c'est plus compliqué, mais c'est pas pour ça qu'il y a un acteur américain qui est revenu au devant de la scène avec la 5G. Hein. On est resté avec du Ericsson, du Nokia, on récupère un peu de Samsung, mais on n'a pas vu revenir un Motorola ou des grands acteurs de l'époque.
Bon. Voilà, après TikTok, après Huawei.
Après Huawei.
Après TikTok. Eh bien voilà, c'est DJI maintenant qui est sur la sellette. On va suivre ça de près, bien évidemment. Dans l'actu aussi, on va parler d'IA maintenant avec les États-Unis qui ont annoncé ce conseil de sûreté, de la sécurité et de l'intelligence artificielle. Avec évidemment la crème de l'IA, hein, Fred. Hein. Alors c'est Joe Biden qui a ordonné que ce comité se forme pour... en quelque sorte aider et d'être un peu à l'avant-garde des menaces en constante évolution posées par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et c'est plutôt intéressant parce qu'on a l'impression d'avoir déjà vu ça Ces réunions que Joe Biden organise avec tous les pontes de l'IA.
Ouais, il l'avait fait qu'avec des fournisseurs. Là, il a mis des chercheurs, il a mis des politiques, il a mis le gouverneur de je ne sais plus quel état. Il y a des
Maryland.
Politiques, il y a le patron de Delta Airlines, il y a le patron de
Northrop Grumman.
Ouais, Northrop Grumman. Il y a le patron de Occidental Petroleum. Enfin, voilà, il y a des industriels qui
sont. Déjà d'Adobe.
Oui, après, il y a des...
Oui, mais il y a un peu de tout, tu veux dire.
Il y a un peu de tout. Quand il s'était vu à l'époque pour l'IA, on se souvient, alors même de l'époque de Trump, on se souvient, autour de la table, c'était que des patrons, tu sais, la photo, que des patrons de la tech.
Oui, il y avait même Tim Cook.
Il y avait un seul...
Il ne souriait pas beaucoup sur la photo.
Elon Musk qui était pas venu, je crois.
Ouais, c'est
le seul qui s'était fait porter pâle. Mais donc là, ben voilà, ils s'y mettent... Il n'y a personne de chez Meta, j'ai vu...
Alors ça, c'est un vrai sujet.
Il y a AWS, il y a Google.
Je ne pense pas qu'il faille le passer comme ça. En fait, c'est un board, c'est un ensemble de personnes qui sont tous soit issus des GAFAM, soit issus des clients des GAFAM, soit un certain nombre d'intellectuels, mais tous les acteurs de l'open source ont été éjectés de l'équipe. Donc c'est comme si, d'une certaine manière... C'est drôle parce que il y a à peu près une semaine, Geoffrey Hinton, qui est un des profs à l'université d'Édimbourg, a fait une sortie qui est assez suivie par les anti, les paranoïaques de l'IA, a fait une sortie en disant l'open source doit être absolument banni en matière d'IA. Donc c'est comme si c'était une réponse de la part des Américains face à la montée en puissance. Je vous rappelle que Llama 3 est sorti il n'y a pas si longtemps et que la puissance de Llama 3 est en train véritablement de concurrencer celle d'OpenAI et GPT-4 Turbo. Donc on est face à une situation où il est possible que ce soit une fronde contre les acteurs de l'open source.
Et rappelons que Geoffrey Hinton, tu parlais de ce monsieur-là, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est l'un des pontes de l'IA. Il a travaillé chez Google pendant des années, il enseigne évidemment dans les plus grandes écoles, et c'est lui qui avait dit que l'IA pouvait être pour amener l'humain à sa perte en quelque sorte, j'exagère peut-être un peu.
Il y en a quelques-uns comme ça,
il était vraiment très très noir concernant l'avenir de l'humanité avec l'IA, et d'ailleurs suite à cette réflexion, il s'était fait virer de Google, je crois. Enfin, il y avait eu un truc ça avait posé problème.
Il partait parce qu'il avait 75 ans,
enfin, voilà, mais c'était, je pense qu'il a dit ça parce qu'il savait que de toute façon il arrivait à la fin.
Et c'est très juste ce que dit Michel. C'est très questionnant le fait d'avoir écarté donc effectivement Meta, mais aussi Tesla. Parce que rappelons-nous qu'en fait Elon Musk a quitté OpenAI quand justement il avait même proposé de le rappeler Closed AI. Et il a quand même entamé une procédure judiciaire contre OpenAI parce que justement ils ont un peu transgressé leur manifeste du départ. Donc il y a vraiment quand même on sent comme une volonté de laisser de côté Hugging Face. N'y est pas. Hugging Face y était lors de la première réunion à la Maison Blanche. N'y sont pas. Palantir n'y est pas non plus. Grosse société de surveillance américaine. Meta n'y est pas. Il y aurait pu avoir Yann LeCun, grande figure de l'open source. Et
c'est bizarre que Meta ne soit pas dans le truc.
C'est probablement une fraude. Alors, il y a un autre aspect aussi. Mais on fait beaucoup de spéculations là.
Ouais, ouais.
Il y a un autre aspect. C'est possible que les GAFAM essaient de se mettre plus ou moins d'accord. Ordre de bataille.
Bien sûr.
Dans le cadre. Et du coup, Biden essaie d'orchestrer cette. On rappelle quand même qu'on est dans une guerre froide, géostratégique aussi avec la Chine. Donc, tout ce qu'on peut maîtriser, surtout avec des modèles fermés, on tente de le maîtriser. L'open source, c'est pas maîtrisable. Enfin, les modèles sont pour beaucoup ouverts, mis à disposition.
Les modèles, les poids et tout ça.
Oui, il y a différents types de modèles. Il y a différents types d'open source.
Mais ça reste que.
Mais il y a quand même Llama 3. Les poids ont été publiés quand même. Oui.
Alors rappelons que ce comité est là pour essayer de comprendre les perturbations qui pourraient être liées à l'intelligence artificielle sur des sujets bien précis, sécurité nationale et économique, la santé publique ou la sûreté. Donc voilà, des sujets, on va dire, importants.
Il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ont déjà des gros contrats avec le gouvernement américain, les Google, les contrats, Microsoft,
les partenaires de confiance, on va dire.
Je ne sais pas s'il y a Oracle dedans, parce que
Oracle, je crois qu'ils sont dedans.
Ouais, donc, tu vois, c'est quand même ceux qui ont.
Tes clients.
Un Meta, je ne sais pas s'il est très client avec. le gouvernement américain.
Je crois que c'est un conciliabule.
Il y a IBM,
IBM, bien sûr.
C'est vrai, c'est les grands industriels.
C'est les grands acteurs historiques.
Qui se rencontrent en mai prochain, je crois, donc là, dans quelques jours. Et l'idée, c'est qu'ils puissent se revoir régulièrement pour essayer de mettre en place donc, des recommandations auprès du gouvernement. On suivra ça de près, parce que je pense que les recommandations seront publiques.
Mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'alors nous, notre comité interministériel, c'était un peu pareil, hein, mais il n'y avait pas de... sur le point que je vais aborder là, c'est qu'à part, bon, on parle de Delta Airlines, on parle d'un autre industriel, mais il n'y a pas de grand, il n'y a pas un Walmart qui pourrait dire, tiens, sur... il pourrait y avoir des acteurs ou d'autres acteurs de la défense, parce qu'ils insistent sur la défense, mais là, on voit aussi qu'il y a un...
Michel, rapidement, et après on passe à peu.
Un commentaire très rapide pour rebondir là-dessus, en disant, je pense qu'on est probablement en train de rentrer dans la phase de désillusion de l'IA. La bulle financière est probablement en train de se dégonfler là, les cours de bourse baissent.
Le choc de surprise est en train de retomber.
Et puis la régulation est en train de reprendre aussi le dessus. Il n'est pas impossible qu'on ait toute une série de freins. Je ne sais pas si vous avez vu les infirmières qui se mettent en grève contre l'IA, parce que NVIDIA a sorti il y a une semaine une étude qui dit que l'IA est plus efficace que les infirmières. Donc il commence à y avoir des freins de tous les côtés qui peut-être nous fait rentrer dans la phase de désillusion.
Moi, je me méfie de toutes ces études.
La consommation d'énergie aussi, parce que là, pour l'instant, les ceux qui continuent à facturer un peu, pas au doigt mouillé, parce que ça va à peu près combien ça... Enfin, elles n'ont pas encore un catalogue tarifaire, mais quand on va commencer à dire, tiens, on va arrêter de facturer AutoCAD, parce que pour l'instant, on a des requêtes assez simples, mais quand on va commencer à avoir des requêtes plus compliquées, avec des trucs qui prennent encore des tokens sur une même requête, la facture, elle va être différente aussi.
Tiens, bah justement, quelle va être la facture d'Apple concernant l'IA ? Parce que c'est la question qu'on peut se poser. Apple est à la traîne concernant l'intelligence artificielle, notamment générative. Et d'ailleurs, Apple ne se cache pas que la prochaine mise à jour iOS, donc iOS 18, sera une mise à jour majeure pour Apple, qui verrait peut-être l'arrivée de l'intelligence artificielle. On le saura lors de la WWDC qui aura lieu
le 10 juin
prochain. Évidemment, on la commentera ici. Ce qui est intéressant, c'est que on est à quoi ? À un mois et demi, en fait, de cette WWDC, on a l'impression qu'Apple est un peu paniqué parce que l'actu nous dit que, finalement, Apple sera en train de négocier avec OpenAI pour introduire ChatGPT, en quelque sorte, dans les iPhones.
Moi, j'y crois pas, J'y crois pas du tout. Je pense que c'est un gros coup de bluff et comme Apple l'a souvent fait, en fait, Apple c'est les spécialistes de la tortue et du lièvre. Ils partent très 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 longtemps après. Ils laissent faire le terrain au premier.
Ils laissent défricher le terrain par le lièvre.
Et après ils vont sortir. Et pour preuve, ils sont déjà en train de travailler. Et j'en reviens sur ce que disait tout à l'heure Frédéric sur des modèles plus petits, plus spécialisés, qui risquent d'open source.
Ouais.
Ils ont une plateforme sur Hugging Face où ils poussent leurs modèles. Ils commencent à avoir de plus en plus d'activités autour de ça. Donc moi, je pense que c'est un feu de paille. C'est quelque chose pour voilà. Je sais pas ce que t'en penses.
Je vous rappelle qu'il y a un mois et demi, on avait les rumeurs inverses en disant iOS 18 n'aura pas d'IA générative. Donc là, étonnant, à un mois et quelques, il y aura de l'IA générative. Et pourtant, ils sont encore en discussion à savoir si on va intégrer l'un ou l'autre modèle.
Oui, parce qu'il y aurait une hésitation entre OpenAI et Google avec Gemini.
Je pense qu'en effet, ils ont... Alors, je peux évidemment complètement me planter, mais je pense qu'en effet, on n'aura pas d'annonce énorme sur iOS 18 en matière de GenAI. Et le retard va être comblé à un moment donné, parce qu'ils ne peuvent pas être en dehors du jeu. C'est pas possible. Je vous rappelle quand même qu'ils sont en train de se prendre une sacrée raclée. Ça ne marche pas, les ventes ne fonctionnent pas. C'est un outil pour les développeurs très très cher. Donc ils sont en train de construire l'écosystème, certes. Mais en termes d'image, c'est très mauvais pour Apple.
Ouais, les iPhones qui se vendent moins bien, notamment en Chine, la régulation européenne qui est terrible, les amendes et le Vision Pro, t'as raison.
Donc effectivement, ils hésitent entre ces deux-là. Il y a un SLM, là, donc un Small Language Model sur lequel ils travaillent. Et puis il y a autre chose, il y a des dirigeants d'Apple qui se posent la question de dire qu'est-ce qu'on va faire exactement de plus que ce qu'on fait aujourd'hui avec une IA générative. On va lui parler, oui d'accord, bon...
Donc, bon, déjà, on pourrait avoir un Siri plus intelligent.
Oui, oui, mais
ce qui est pas compliqué.
Si on peut lui demander autre chose que faire cuire les pâtes, ça sera
pas mal. Lui dire retrouve-moi toutes mes photos où on voit une plage et tout ça. Bon, on pense que ça pourrait. Mais voilà, il y a quand même des dirigeants qui s'interrogent pour dire attends, on va pas développer. Quel va vraiment être l'usage autour de ça? On a aussi des actionnaires d'Apple qui ont rejeté il y a peu de temps. Certains voulaient que Apple dévoile un peu ses travaux sur l'IA, les normes éthiques et tout ça. Les actionnaires ont dit non, il ne faut pas qu'on dévoile de. Donc on voit quand même que même que ce soit les actionnaires, que ce soit en interne, les équipes, on disait qu'il y avait ceux qui travaillaient sur l'IA sur le téléphone, ceux qui travaillent sur l'IA plutôt sur les Mac, qui sont pas forcément d'une même voie. Faut pas oublier que pareil, il y a eu pas mal de départs et aujourd'hui ils n'ont pas un grand gourou aujourd'hui chez Apple comme ils l'ont chez DeepMind, comme il y en a chez OpenAI et tout ça. Voilà, on n'a pas un nom. Enfin, on dit Yann LeCun chez Meta. Enfin voilà, il y a des noms. Là, chez Apple, personne n'est capable de dire oui, il y avait Goodfellow, mais lui, il est parti en 2022. Depuis, on ne nous dit pas tiens, on a le ponte. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'hésitations de ce côté-là. Et pourquoi, à mon avis, Apple parle un peu plus d'IA, c'est parce qu'ils sont en train de se prendre quelques mauvaises parts de marché, enfin de perdre des parts de marché en Chine, et que Xiaomi communique à fond sur la 5G, l'IA, nos téléphones et tout ça. Et donc, ils sont obligés de dire, attendez, nous, on arrive, on va mettre de l'IA.
Samsung est le principal concurrent on va mettre de ailleurs qu'en Chine, et Samsung communique sur l'IA, le Galaxy S24, c'est l'intelligence artificielle.
Et par rapport aux marchés asiatiques, ils sont obligés de dire.
Moi, je suis pas d'accord avec vous, je pense qu'à la WWDC, on aura quand même de gros chapitres dédiés à l'intelligence artificielle.
Le problème, c'est qu'ils vont pas être prêts. C'est-à-dire, peut-être qu'ils vont faire des annonces.
Ça va me coûter un resto,
peut-être qu'ils vont faire des annonces un peu plus loin. Mais je les vois mal sortir un OS 18 plein de dès la sortie.
Sinon, non mais franchement, vous pensez qu'ils pourront, enfin, ils sont obligés de faire évoluer Siri.
Peut-être qu'ils peuvent mettre un gadget. Peut-être qu'ils peuvent mettre une ou deux fonctions à
Siri,
gadget.
Siri, Michel.
Mais regarde Galaxy AI.
On le saurait. Ils sont en train d'hésiter entre OpenAI et Gemini. Ils ont un truc.
Moi, je pense pas. Je pense qu'on va avoir une grosse surprise et je pense que l'état dans lequel on est là, dubitatif, c'est un état pré 2008, pré moment iPhone. Je pense qu'on aura des surprises. Je pense qu'ils ont, ils sont rois là-dessus. Mais
rendez-vous la boîte va pas sortir.
Il va pas sortir de la boîte OpenAI ou je sais pas quelle boîte noire. Je le sens pas. Ça, je le vois pas.
Là, on est à l'égalité. Deux, pas d'IA et avec Pierre, on dit qu'il y a de l'IA.
Et encore une fois, c'est pas Apple qui communique. Là, c'est toujours des sources qui sont bien introduites.
Oui, bien sûr.
Et pour répondre au niveau des usages, je te rappelle qu'il y a quand même une traîne qui est vraiment en train d'exploser en ce moment sur tout ce qui est wearables. Donc tous les dispositifs qu'on porte, donc des pendentifs, machin, etc. Il y en a qui sortent toutes les semaines. Et en fait, l'idée, c'est que le meilleur des wearables, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc je pense qu'en fait, et n'oublions pas qu'un produit, il gagne parce qu'il a un mode de distribution. C'est ça le mode de distribution.
Aujourd'hui, on verra demain. Michel, Pierre et Fred, on vous revient dans un instant.